plusieurs kilomètres pour trouver quelques lampadaires qui éclairent la voie, notamment au croisement de la rue Kitenge à Makelekele. Quelques jeunes élèves révisent leurs leçons sous le cône de lumière.
C'est une bonne chose en fait, c'est bien éclairé et il y a de l'air pur, du coup tu as plus de concentration et T'as pas du mal à mémoriser tes leçons.
Il y a de l'air pur, donc c'est frais. Quand tu lis, il n'y a pas de dérangement, tu es là au calme. Les leçons, tu as la facilité de retenir ce que tu lis.
Cependant, quelques étudiants évitent parfois la lecture sous les lampadaires.
Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Et lorsque tu arrives là-bas aussi, tu peux être distrait. Et la lumière des lampadaires, là aussi, sur le cahier aussi, ça peut frapper aux yeux. Et ça peut créer des maux d'yeux, tout ça.
À Brazzaville, quand l'énergie domestique est coupée, et les lampadaires ne s'allument pas, les étudiants sont contraints de lire à la lumière de la bougie, voire du téléphone. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
À Brazzaville, il est 5h43.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre, reportage au Cameroun, à la rencontre d'Arsène Etaba, l'un des danseurs les plus célèbres du pays qui parcourt le monde entier pour présenter des performances engagées. Il présente son premier spectacle ce week-end à Yaoundé. Yaoundé où disparaissait il y a 2 ans jour pour jour le journaliste Martinez Zogo. Niveau judiciaire, l'affaire patine dans des problèmes de procédure. Volontaire ou pas, on pose la question à notre invité. Le dossier Afrique Éco est cette question. Quelles conséquences économiques de la brouille diplomatique entre Paris et Alger? Et comme tous les vendredis, en fin de demi-heure, vous retrouvez la parlotte de Charlotte. Tout de suite, les sports. Avec vous, Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Nemo.
Un journal des sports qui débute en Côte d'Ivoire. 1 an après la CAN, le pays se dote de nouvelles infrastructures sportives.
Avec la pose jeudi de la première pierre du Centre Technique National de Football à Bingerville, à l'est d'Abidjan. Un rendez-vous que de nombreux politiques ivoiriens et acteurs du foot africain ne voulaient pas manquer pour saluer le début des travaux de ce centre dont le but est de renforcer le développement du football ivoirien. Yoann Gourlet.
Le projet du CTNF est de moderniser ce centre laissé à l'abandon afin d'offrir des conditions optimales à la détection, la formation des jeunes et la performance des équipes nationales. À l'image de Clairefontaine, le centre national du football français, Yacine Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football.
À la création de ce centre, le rêve était de réaliser à terme un Clairefontaine ivoirien. Mais notre objectif premier demeure la promotion et le renforcement des capacités du football des jeunes filles et garçons.
En plus de la réhabilitation des espaces existants, le chantier sera de construire 6 bâtiments, dont ceux destinés à l'hébergement, l'entraînement et la récupération. Un centre entièrement financé par la FIFA grâce au fonds Forward, à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, absent hier, s'est exprimé sur grand écran depuis New York.
Ce centre ne sera pas simplement un centre technique de football. Il deviendra un véritable symbole d'espoir et d'opportunité. Un tremplin pour les jeunes joueurs, entraîneurs et passionnés.
Avec ce projet, les autorités ivoiriennes espèrent surfer sur le succès des éléphants lors de la CAN à domicile il y a près d'1 an. Pour, disent-elles, faire de la Côte d'Ivoire une des grandes nations du football mondial. L'inauguration du centre doit avoir lieu en mars 2026, quelques mois donc avant la Coupe du Monde de football à laquelle la Côte d'Ivoire espère participer. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI.
La Côte d'Ivoire qui a vibré hier, Antoine, en suivant les exploits d'Amad Diallo.
L'ailier de Manchester United a attendu son heure et puis il a sorti le grand jeu. 82e minute, l'Ivoirien égalise face à Southampton. 90e, il donne l'avantage aux Red Devils de 1. 94e, il s'offre un triplé qui permet à Manchester United d'enregistrer une première victoire en 5 matchs de Premier League. Après 21 journées, Manchester United est 12e du classement grâce à Diallo et aussi un peu André Onana, dont les parades face aux Saints ont maintenu United hors de.
Et puis du handball, 3 défaites pour les nations africaines en lice au mondial.
Des revers logiques. Dans le groupe B, l'Algérie s'incline face à l'Italie 32-23. La Tunisie plie face au Danemark 32-21. Et enfin, dans le groupe G, le Cap-Vert rate son entrée en lice, dominé par l'Islande 34-21. Paulo Moreno, le pivot capverdien.
Il va falloir se pencher sur notre début de match. Je pense que nous avons trop souvent péché au début des rencontres, que ce soit à la CAN ou à la Coupe du Monde. Nous sommes une équipe composée d'excellents joueurs avec beaucoup de qualités, nous l'avons déjà prouvé. Mais l'image que nous avons donnée face à l'Islande n'est pas celle du Cap-Vert. La première mi-temps a été très mauvaise avec beaucoup de fautes techniques qui ont donné des buts faciles à l'Islande. Ensuite, on s'est remis à l'endroit et la deuxième mi-temps a été meilleure, mais elle était encore loin de ce qu'on est capable de faire. Nous sommes une équipe vaillante, combative, résiliente, avec beaucoup de détermination, et nous ne l'avons pas montré. Et c'est ce qui me rend triste. Nous devons changer cela.
Paolo Moreno avec Marco Martins. Ce vendredi, l'Égypte affronte Bahreïn et la Guinée se mesure à la Hongrie.
Merci Antoine Grenier pour les sports. On vous retrouve tout au long de la matinée sur RFI.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Les principaux titres de ce vendredi 17 janvier 2025. Israël approuve finalement l'accord de cessez-le-feu contre libération des otages détenus dans la bande de Gaza. Le cabinet de sécurité et la coalition gouvernementale doivent toutefois encore se réunir aujourd'hui pour le valider. De leur côté, les ONG humanitaires, elles, demeurent dans l'incertitude sur le nombre de postes qui seront rouverts sur l'état des routes, ainsi que sur les risques de pillage. Emmanuel Macron et Antonio Guterres au Liban, le président français et le patron de l'ONU n'ont pas prévu de se rencontrer. Ils viennent tous deux soutenir les nouvelles autorités. Le chef de l'État français doit rencontrer le président élu il y a quelques jours, Joseph Aoun. Et puis un ressortissant espagnol enlevé en Algérie près de Tamanrasset dans le sud du pays. Il aurait été emmené au Mali voisin. Madrid dit travailler activement pour clarifier les faits. Plus d'informations sur RFI.fr. Notre reportage au Cameroun à la rencontre d'Arsène Etaba, considéré par ses pairs comme l'un des meilleurs danseurs du pays. Voilà bientôt 10 ans qu'il fait le tour des salles de danse, mais également des rues de son pays, d'Afrique et du monde pour défendre un art engagé. Et ce week-end, Arsène Etaba présente son premier solo au laboratoire Otni de Yaoundé, un spectacle intitulé « Les dieux dansent mal » et dans lequel il interroge la gouvernance des dirigeants. Reportage signé Richard Onanena.
Le corps d'Arsène Etaba transpire la danse. Son sens inéguride, la grâce de ses mouvements et son énergie explosive font trembler le plancher du laboratoire Otni, où il se prépare devant quelques admirateurs.
Je pense que c'est la danse qui m'a choisi. En la danse, j'ai trouvé beaucoup d'autres facilitations, j'ai trouvé beaucoup d'autres ouvertures. J'ai été lauréat de découverte en 2022, mais avant ça, j'avais déjà eu la grâce de rencontrer Zora Snake, chorégraphe, performeur, une légende de la danse également au Cameroun, qui m'a fait connaître l'Europe pour la première fois avec sa pièce Shadow Survivor. Et c'est de là qu'en fait qu'un autre chorégraphe, Serge Aimé Koulibaly, de face aux danses théâtre, m'a récupéré.
La danse, sa passion, l'a accompagné jusque dans son parcours universitaire. L'année dernière, à l'université de Douala, il en a fait le sujet de sa thèse en pharmacie, la danse comme thérapie. Et quand Arsène Etaba danse, c'est surtout pour lui l'occasion de faire passer un message. Pour cela, il a créé un style hybride, la djem.
La djem est une danse afro-urbaine qui est née à la suite d'événements fâcheux, je dirais, parce que il nous était interdit à une certaine période de danser dans nos propres rues. Alors moi, en tant que citoyen camerounais, jeune camerounais, entrepreneur, passionné d'art et de culture, je ne parvenais pas à comprendre comment est-ce que il m'est interdit, moi, de danser chez moi, surtout que mes semblables, mes proches aimaient bien ce que je faisais. Donc, c'est parti d'une frustration.
8 ans après ses débuts dans le ballet universitaire et sa participation à plusieurs festivals en Afrique et dans le monde, avec les compagnies mondiales du Cameroun et surtout face aux danses du Burkina Faso, Arsène est devenu une source d'inspiration pour d'autres jeunes. Rose Ngewa, récente lauréate du prix Goethe Découverte en performance scénique, le suit à la trace.
Pour moi, c'est la référence comme danseur avec les compétitions, la danse de création. Je fais tout ce qu'il fait, donc j'espère pouvoir être comme lui plus tard.
Arsène Etaba est sur scène avec son premier spectacle solo, Les dieux dansent mal, qu'il joue ce week-end à Yaoundé. Ensuite, direction l'Autriche, première étape d'une nouvelle tournée mondiale. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Souvenez-vous, en octobre dernier, la France avait renforcé son soutien au plan marocain pour le Sahara occidental. De quoi renforcer les relations entre Paris et Rabat, de quoi les tendre en revanche entre Paris et Alger. Conséquences diplomatiques donc, avec plus récemment les affaires Boualem Sansal et celles de l'influenceur algérien renvoyé en France. Et sur le plan économique, quelles sont les conséquences de cette brouille? Si quelques signaux négatifs ont été repérés dans le commerce du blé français ou dans le redémarrage de Renault en Algérie, les chiffres de douane entre les deux pays ne révèlent aucune perturbation majeure concernant 2024. Plus de détails avec Claire Fage qui signe le dossier Afrique Économie.
Les signaux de tension existent sur le terrain économique entre l'Algérie et la France. Le français Renault n'a toujours pas obtenu l'autorisation de relancer sa production, reconnaît Michel Bizac, le président de la Chambre de commerce algéro-française, alors que le constructeur français s'était adapté aux nouvelles réglementations algériennes.
Renault a fait de gros efforts d'investissement pour demander à ses sous-traitants de fabriquer en Algérie, et donc normalement, Renault devrait obtenir ses autorisations. Mais le contexte politique n'est pas du tout favorable.
Le blé français est également boudé par l'Algérie depuis octobre, mais pour des raisons qui sont loin d'être uniquement politiques, souligne le courtier en céréales Damien Vercambre.
La qualité était vraiment mauvaise en début de campagne. Les silos portuaires ont commencé à la travailler. Mais il aurait fallu avoir une collaboration, en fait, entre la France et l'Algérie. Mais la porte s'est refermée, quoi. Je pense que l'Algérie a trouvé d'autres fournisseurs et essentiellement mer Noire.
Pour l'heure, estime l'homme d'affaires algérien Slim Otmani, la brouille diplomatique entre Paris et Alger n'a pas d'impact autre que psychologique sur les opérateurs.
Nous ne voyons pas du tout l'impact aujourd'hui. En revanche, évidemment, les entreprises françaises s'interrogent sur les conséquences que ça pourrait avoir sur leurs activités en Algérie.
L'inquiétude des entreprises algériennes et françaises n'est pas toujours fondée, observe Michel Bizac auprès de ses adhérents.
Il faut aussi faire bien attention à ce qui relève un petit peu du fantasme et de la réalité. Beaucoup d'entreprises mettent sur le dos de la situation actuelle certains blocages, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a des excès de zèle de l'administration algérienne.
Concrètement, il n'y a pas de perturbation majeure du commerce bilatéral en 2024. Selon les derniers chiffres des douanes, les exportations de l'Algérie vers la France ont diminué de 12%, mais les achats français de gaz naturel liquéfié algérien ont augmenté. Dans le même temps, les exportations de la France vers l'Algérie ont grimpé de 8%. Des fluctuations classiques, souligne Dafer Saïdan, professeur à Skema Business School.
Il faut être mesuré. Les exports comme les imports de la France sont erratiques. Il y a des années où le taux de croissance des exports et des imports est positif, il y a des années, c'est négatif. En l'état actuel des choses, on ne peut pas faire de conclusion structurelle. Pour moi, il n'y a pas de rupture commerciale.
Il est trop tôt, estime l'économiste, pour mesurer les conséquences éventuelles du différend politique franco-algérien.
Claire Fage et ce dossier Afrique Éco, c'est à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. On vous en parle tout au long de la journée sur RFI. Voilà 2 ans, jour pour jour, au Cameroun, que le présentateur Martinez Zogo était enlevé avant d'être retrouvé mort. Et cela fait bientôt 1 an, 10 mois précisément, que 17 personnes comparaissent devant le tribunal militaire de Yaoundé. Pour l'heure, aucun accusé ni témoin n'a été entendu dans ce procès qui a l'air de s'enliser dans des débats de procédure. Pour parler de l'affaire ce matin, notre invité, le chroniqueur judiciaire Christophe Bobiokono. Christophe Boisbouvier lui a notamment demandé si ces lenteurs et ces débats sans fin étaient voulus ou non.
Alors, avec le temps, on peut effectivement penser que ce qui se passe est voulu. Parce que en ce moment, depuis à peu près 2 mois, le procès s'est quasiment arrêté au tribunal militaire de Yaoundé parce que les juges ont pris une décision et les questions posées par cette décision-là sont soumises à l'examen de la cour d'appel du centre.
C'est-à-dire que le tribunal militaire a modifié l'ordonnance de renvoi, ce qui oblige un autre tribunal à se prononcer en ce moment, c'est ça?
Oui.
Est-ce que depuis le début du procès, l'un des principaux acteurs, l'un des principaux témoins a pu s'exprimer?
Aucun des témoins, aucun accusé n'a été entendu jusqu'à présent par rapport aux faits qui sont la cause de la procédure judiciaire. Ils ont simplement plaidé non coupable pour l'ensemble d'entre eux lorsque la question leur a été posée. C'est tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent.
Est-ce que les juges du tribunal militaire jouent la montre?
Oui, il apparaît que les juges du tribunal militaire jouent quand même la montre parce que certaines des parties avaient sollicité des audiences en session. Ça signifie la possibilité pour le tribunal de connaître l'affaire pendant plusieurs jours d'affilée. Mais les juges n'ont pas trouvé nécessaire de répondre à cette question-là. En tout cas, ils ont repoussé cette demande-là. Donc, jusqu'à présent, les audiences sont séparées et sont tenues toutes les 3 semaines. Donc, pour une affaire qui compte 17 accusés, ça peut durer de manière interminable.
Entretien entre Christophe Bobiokono et Christophe Boisbouvier à retrouver en intégralité dans 1 heure et sur RFI.fr. Allez, avant le début des RFI matin et comme tous les vendredis, c'est l'heure de retrouver Charlotte Tamac pour sa parlotte. Et Charlotte, si certains vivent en paix et semblent ne jamais avoir de conflit, C'est parce que, selon vous, il existe entre eux des pactes de non-agression.
Oui, il existe des pactes de non-agression, ces traités signés entre États pour éviter des conflits armés et régler les différends par des voies diplomatiques. Il n'y a pas que les États qui ont des conflits, hein, mais les individus aussi. C'est pourquoi il existe aussi le pacte de non-agression entre personnes. Lorsque vous voyez deux personnes en paix, ce n'est pas qu'il n'y a jamais risque de conflit, c'est juste qu'il y a entre eux un pacte de non-agression. Voisin. Te voilà qui chasse mes enfants quand ils viennent cueillir les mangues sur ton manguier. Quand je vais encore t'interdire avec ta famille et tes visiteurs de traverser ma cour pour aller chez vous, tu vas encore dire que je suis méchant. Hein? Écoute, ma cour, si tu te mêles encore de mes affaires, tu me rembourses l'argent que tu me dois et ne viens plus jamais me demander un prêt. Le pacte de non-agression peut exister à l'insu de celui avec qui on pactise, surtout quand on connaît sa puissance de frappe. Man, je dis, hein, tu veux mourir. Tu sais que le type-là est ceinture noire deuxième dan de karaté. Même s'il a bu sans payer, ça fait quoi? Au lieu de vouloir l'obliger à payer, moi, à ta place, je lui ajoute encore une bière et je lui paye même le taxi. Lors d'un conflit face à un groupe désarmé, il peut arriver qu'on envoie un missile verbal à tête chercheuse pour atteindre la personne visée en évitant que quelqu'un avec qui on a un pacte de non-agression ne soit une victime collatérale qui pourrait rompre le pacte.
Il y a des gens ici dans cette salle. On ne sait pas ce qu'ils foutent ici.
Je ne parle pas de toi, hein, grand frère, mais des gens. Le pacte de non-agression, c'est un pacte avec des articles bien détaillés.
Mako, n'est-ce pas on avait dit que personne ne doit plus créer l'instabilité sentimentale chez le gars de l'autre? Hein? Là où tu ne portes pas le soutien, alors qu'on sort dîner avec mon nouveau gars. Tu veux que je commence aussi à porter la mini-jupe quand on est avec Alain? En couple, il y a des sujets qui forcent les accords de paix et la signature d'un pacte de non-agression.
Tu reviens encore sur ce sujet, alors qu'on avait dit qu'on ne parlait plus de ça. Tu veux que je revienne aussi sur ton passé?
Les pactes de non-agression maintiennent la paix, mais certains pactes peuvent faire plus de mal que de bien.
Tu dis que quoi? Que c'est mieux qu'on arrête. Hein? Quand tu venais me draguer, tu ne savais pas que j'étais la petite sœur de ton meilleur ami. C'est après avoir agressé mon cœur que tu te rappelles que tu as un pacte de non-agression avec ton ami. Ah, va en brousse avec ça. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare.
Comme quoi, un pacte de non-agression n'est pas forcément un pacte de non-transgression. À vendredi.
À vendredi, Charlotte. 5h59 ici à Paris. C'est la fin de cette deuxième demi-heure consacrée à l'actualité africaine. Merci à Pauline Berthélémy, à la réalisation, à Vincent Dublange, à la rédaction en chef. Le début d'RFI Matin, c'est dans 30 secondes. Vous retrouvez Julien Coquel-Rohem.
Géopolitique.
Lundi prochain marquera le coup d'envoi du second mandat de Donald Trump. Le 47e président des États-Unis prendra les rênes d'une économie qui se porte plutôt bien comparativement à la zone euro. Joe Biden affirme laisser à la nouvelle administration des cartes très fortes à jouer comme le cessez-le-feu à Gaza. Donald Trump va-t-il renforcer le leadership américain?
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Samedi, à partir de 18h40 TU.
RFI.